بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 20 du mois Sha'ban de l'année 1446, correspondant au 8 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de ces 6 points tirés de la biographie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont été choisis minutieusement par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'essayer de tirer un maximum d'enseignements et de profit. Et comme vous savez, toute la biographie du prophète alayhissalam est riche d'enseignements et de profit pour celui qui le prend comme exemple et comme modèle. Lakin, ces 6 points ont la particularité d'être en lien directement avec le sujet le plus important de notre religion, qui est at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid, c'est le sens même de la parole La ilaha illallah avec laquelle on entre en islam. Comme vous savez, pour entrer en islam, on dit Ashhadu an la ilaha illallah. Personne ne peut devenir musulman sans prononcer cette parole. Et c'est la clé du paradis. Et c'est le début, notre début dans la religion de l'islam. Et sa signification, c'est at-tawhid. C'est que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et d'une manière exclusive. Quand t'invoques Allah seulement. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. De la même manière que quand tu fais la salat, quand tu sors la zakat, quand tu jeûnes, tu le fais pour Allah. Tu dois alors lui réserver toutes tes adorations. Et vouer une adoration à autre qu'Allah, c'est l'acte le plus abominable, c'est le plus grand crime qui existe. Ça s'appelle shirk. C'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Allah dit explicitement dans le Coran, « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Et ça, bien évidemment, si jamais la personne, elle meurt sans repentir. Lakin, pendant notre vivant, du moment qu'on revient vers Allah, quel que soit notre péché, même ceux qui commettent la mécréance, l'associationnisme, quel que soit notre péché, quand on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il est le tout miséricordieux, il est le clément par excellence, il pardonne, il absout les péchés, subhanahu wa ta'ala. Lakin, celui qui meurt sur shirk, il sera voué pour l'éternité au feu de l'enfer. D'où le danger de ce péché. Et c'est pour ça notre père Ibrahim, alayhi salam, le père du monothéisme, le père de Tawhid, lui-même avait peur de shirk. Vous lisez tous dans le Coran, Allah nous dit de Ibrahim, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ نسيت الآية استغفر الله. En tout cas, Ibrahim, alayhi salam, dans le Coran, il avait peur, Allah nous rapporte de lui qu'il avait peur de shirk. Et il avait peur que sa descendance tombe dans le shirk. Na'am, il a dit, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Il a dit, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Dans le sens approximatif, il a dit, oh Allah, épargne-moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles, car elles ont égaré beaucoup de gens. Vous imaginez le père du monothéisme, celui qui était le seul monothéiste sur terre à une époque. Celui qui a détruit et qui a cassé les idoles avec sa propre main. Le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam, avait peur de shirk. Et comment nous, on n'a pas peur de shirk? C'est qu'on ignore son danger. C'est pour ça un tabi'i, un grand parmi les tabi'i qui s'appelle Ibrahim Taymi, a dit « وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ » Et qui peut se sentir à l'abri après toi, ô Ibrahim? Sauf quelqu'un qui ignore le danger de shirk et qui ignore ce que ce shirk est réellement. Shirk est très propagé, malheureusement, à notre époque où on s'est éloigné de la science. On s'est éloigné des hommes de science, au point où les gens ont ignoré ce que c'est shirk. Vous trouvez des gens qui accrochent des mains de Fatma dans leur voiture pour repousser le mauvais œil, qui font porter des talismans à leurs enfants pour les protéger des mauvais œils, qui accrochent un dhikr ou là le verset de l'Kursi dans leur voiture. Le Coran n'a pas été révélé pour que tu l'accroches et pour que tu décores avec les murs. Il a été révélé pour que tu le lises et que tu le comprennes et que tu le mettes en pratique. Coran, tu ne trouveras jamais dans la maison du prophète, un mur qui est décoré avec surat Nas ou la surat al-Falaq. Ça n'existe pas chez eux. Là, qu'une légende... Tfadala.
وقت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Donc mes frères, on est arrivé au quatrième point de ces six points de la biographie du prophète alayhi salam, et on a lu les hadiths rapportés au sujet de l'histoire de la mort de Abu Talib dans notre dernière rencontre. On a parlé de Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. L'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, le frère de son père Abdullah, qu'il a pris en charge après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib. Il lui a confié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a veillé sur lui, il a fait pour lui ce que personne d'autre n'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a protégé, il a veillé sur lui, il l'a rapproché de lui, et c'était sa protection à l'extérieur. De la même manière que son épouse Khadija, radiallahu anha, qu'il a épousé en ayant 25 ans, et elle avait 45 ans, elle était la tranquillité et la quiétude pour le prophète, alayhi sallam, à l'intérieur de chez lui. C'est pour ça le décès de ces deux personnages, notre mère Khadija, radiallahu anha, et l'oncle du prophète, alayhi sallam, Abu Talib, était un événement extrêmement triste pour le prophète alayhi salam, au point où l'année ils sont décédés, en l'espace de quelques jours les deux sont décédés. Cette année s'est fait appeler l'année de la tristesse. L'année le prophète alayhi salam, après la mort de son oncle, il a subi ce qu'il n'a jamais subi auparavant. Le kuffar, il n'osait pas lui faire du mal à cause de son oncle et la protection de son oncle et le statut de son oncle et l'amour qu'il avait pour lui, son oncle. Et quand le prophète a su que son oncle agonisait et qu'il était dans les derniers instants de sa vie, il s'est rendu chez lui rapidement et il l'a invité à prononcer la parole La ilaha illallah. Il a dit Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan, uhadju laka biha indallah. Dis la parole La ilaha illallah. Car Abu Talib comprend ce que ça veut dire La ilaha illallah. C'est un arabe pur. Contrairement à nous, on a besoin d'étudier La ilaha illallah et de comprendre sa signification et de savoir ce qu'elle implique. Abu Talib, comme Abu Jahl, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont tous les outils de la compréhension. C'est pour ça Abu Jahl, il disait, si la parole La ilaha illallah était une simple parole avec la langue, je l'aurais dit. Mais lui, il sait que ce n'est pas une simple parole. Ça implique beaucoup de choses. Il doit délaisser toutes les idoles de sa tribu et que Quraysh adore. Contrairement à aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui s'appelle Mohammed et qui s'appelle Mustafa et qui a fait le pèlerinage 10 fois et qui est assidu à toutes les salawats en groupe tous les jours et il égorge pour autre qu'Allah. Et quand il est dans des situations de détresse et de difficulté, il se dirige vers qui ? Vers Sidi Antel et Sidi Antel, et non pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme n'a pas compris la ilaha illallah. S'il l'avait compris, wallahi, il n'aurait pas fait ça. Ou il le fait sans dire la ilaha illallah. Amma le dire et faire l'opposé de ce qu'elle implique, c'est qu'il ne l'a pas compris. C'est pour ça aujourd'hui, on a besoin d'enseigner aux musulmans la signification de la ilaha illallah et de leur enseigner ses conditions. Car la ilaha illallah, certes, elle est la clé du paradis, mais il faut qu'on vienne avec une clé ayant des dents. Sinon, la porte du paradis ne sera pas ouverte pour nous. Et les dents de la clé, ce sont les conditions de la ilaha illallah. Et la première de ces conditions, c'est l'ilm, la science. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, « Fa'lam annahu la ilaha illallah ». Sache qu'il n'y a de divinité qui est digne d'être adorée, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces conditions, la certitude, la véracité, la sincérité, et ainsi de suite. Donc, le prophète alayhi sallam s'est rendu chez son oncle qui était mourant, qui agonisait. Il lui a dit, dis la parole la ilaha illallah, avec laquelle je pourrai te défendre auprès d'Allah. C'est-à-dire, sans la prononcer, je ne pourrai rien pour toi. Je ne peux pas te défendre. Je ne peux pas intercéder en ta faveur si tu ne dis pas la ilaha illallah. Car l'intercession ne profite qu'à un mouahid, qu'à à quelqu'un qui a la ilaha illallah, pas seulement sur la langue, dans le cœur. Et il y avait auprès de Abu Talib deux hommes, deux compagnons, deux mauvais compagnons. Et de ça, on prend l'importance de choisir ses amis et ses fréquentations, d'être en amitié avec des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui font des efforts pour leur religion, et de s'éloigner des gens qui nous écartent de la religion et qui nous éloignent de la religion. Et malheureusement pour Abu Talib, il y avait auprès de lui deux hommes. Le premier, c'est Abdullah ibn Abi Umayya. C'était un grand ennemi du prophète alayhi sallam, mais il finira musulman. Et il y avait également Abu Jahl. Abu Jahl, il s'appelle Amr ibn Hisham. Son surnom était Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Le prophète alayhi sallam l'a surnommé Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Et quand le prophète alayhi sallam a invité son oncle à dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit « Atarghabu an millati Abd al-Muttalib ?» Regardez, mes frères, il y a ici un point d'une très très grande importance qui démontre ce que je viens de dire, que ces gens-là, c'était des Arabes purs qui comprenaient la parole « La ilaha illallah » malgré que Abu Jahl, c'est Fir'aoun de Fir'aoun al-Umma, un des plus grands tyrans de cette communauté. Cet homme, à lui tout seul, il a fait énormément du mal au prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Jahl. Lakin, Abu Jahl a compris que si jamais Abu Talib, il vient à dire la parole « La ilaha illallah », c'est qu'il a abandonné toutes les idoles de son peuple et de sa tribu. Toutes les idoles qu'adorait Quraysh. Il a compris cela. C'est pour ça qu'ils lui ont dit « Atarghabu an millati Abd al-Muttalib ? tu vas délaisser et abandonner la religion de ton grand-père. Et c'est quoi la religion de son grand-père? La religion de son grand-père, c'est le polythéisme, c'est ash-shirk, l'adoration des statues, des idoles. Donc ils ont compris, si jamais il la prononce, et il l'a dit sincèrement, c'est qu'il a abandonné le polythéisme et qu'il est rentré dans le monothéisme. C'est pour ça qu'ils lui ont dit cela. Et il ne l'a pas dit. Le prophète alayhi salam a répété une deuxième fois. Une troisième fois, il a refusé de la dire à la fin. Il a dit, je meurs sur la religion de mon grand-père. Je meurs sur la religion de Abd al-Muttalib. Donc il est mort sur la religion de shirk, de l'associationnisme. De la même manière, Abu Jahl est mort mécréant. Contrairement à Abdullah ibn Abi Umayya, qui est entré en islam, il fait partie des compagnons. Allah l'a sauvé de la mécréance. Donc, de ce hadith authentique que nous avons lu ensemble la semaine dernière, nous prenons beaucoup d'enseignements, nous pourrons tirer beaucoup d'enseignements. Tout d'abord, mes frères, la foi, c'est pas avec l'apparence, c'est pas avec les belles paroles. La foi, c'est une croyance ancrée dans ton cœur qui se traduit par une pratique. Et le fait qu'une personne aime des muslimines ou aime l'islam, ceci n'est pas suffisant pour qu'elle entre en islam. Si on avait le temps de vous lire les poèmes de Abu Talib au sujet du prophète, vous allez dire, tous ces poèmes, ce n'est pas possible que ce soit dit par un mécréant. Parce que Abu Talib, il savait que le prophète était sur la vérité. Il savait que sa religion, c'est une religion de vérité. Lakin, il a refusé de la suivre. Donc le fait d'aimer le prophète et d'aimer et de savoir que l'islam est une vérité, ça ne suffit pas pour qu'on entre en islam. Il faut l'accepter et se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre intérieur, c'est-à-dire dans le cœur, et aussi dans l'apparence, dans l'ensemble de ce que nous faisons. C'est pour ça, et ça on peut le trouver encore aujourd'hui, des non-musulmans qui sympathisent avec les musulmans, qui sympathisent avec l'islam. Lakin, ça ne fait pas d'eux des muslimines. Un muslim, il faut qu'il accepte l'islam et qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord avec le pur monothéisme, qui est la chose la plus importante en islam d'une manière absolue. Le pur monothéisme. Et l'islam dans sa signification, que signifie l'islam? L'islam, ma ma'na l'islam. L'islam, c'est pour ça qu'on ne doit pas traduire l'islam par musulman. Des fois, je le fais par oubli. Un musulman n'a pas de signification, n'a pas de sens. Si vous regardez les Anglais, quand ils traduisent musulman, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent musulman. Lakin, en langue française, ils disent musulman, alors que ça n'a pas de sens. On doit traduire par soumis ou dire tout simplement musulman. Car musulman, c'est un mot qui a un sens très très fort. Ça résume ce que c'est l'islam. Donc l'islam, mes frères, les hommes de science le définissent, disent al-islamo. C'est tout d'abord la soumission à Allah avec le pur monothéisme. Le pur monothéisme, toutes tes adorations, tes invocations, tes sacrifices, ton immolation, tout ce que tu fais comme acte d'adoration, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te désavoues, ça ne fait pas encore de toi un mouahid. Le fait d'adorer Allah seul, ça ne fait pas encore de toi un mouahid. Jusqu'à ce que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça la parole « La ilaha illallah » elle est composée de deux parties en français, en arabe. « La ilaha illallah » une négation et une affirmation. Donc il faut l'ensemble des deux. C'est ça qui fait de nous des mouahidin. On adore Allah seul et on mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Al-istislamu lillahi bit-tawhid wa lil-qiyadu lahu bit-ta'a » et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant sa religion et sa législation. Et se désavouer de l'associationnisme et des associateurs. C'est ça la définition de l'islam. Et à la fin de ce hadith, Le Nabi, quand son oncle est décédé, et avec ça je vais terminer, inshallah ta'ala, quand son oncle est décédé, mécréant, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, il a dit, La astaghfiranna laka ma lam unha ank. Je ne cesserai de demander le pardon à Allah en ta faveur, sauf si Allah me l'interdit. Et directement après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans lequel il a dit « Ma kana lil-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin » Il n'est pas autorisé aux prophètes, ni à ceux qui croient en Allah, de demander le pardon en faveur des associateurs, de ceux qui meurent mécréants. On n'a pas le droit de demander le pardon pour ceux qui meurent mécréants. Là, pendant leur vivant, on demande à Allah de les guider et de leur faire accepter la vérité. Là, celui qui meurt mécréant, il est strictement interdit de demander le pardon en sa faveur. C'est pour ça que le Nabi a cessé de le faire. Et Allah a révélé au sujet de Abu Talib le verset dans lequel il dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. » Certes, tu ne guides pas ceux que t'aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Certes, nous avons les causes de la guider. On peut montrer aux gens la vérité et le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et les inciter et les inviter à le suivre. Mais la guider des cœurs appartient à Allah seul. Même le prophète Islam, il n'a pas la capacité de guider qui il veut. Ça, c'est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, on le lit tous dans le Coran. Et pourtant, vous trouvez certains musulmans ignorants de tawhid qui vont demander la guider à des créatures dans leur tombe. Des morts. Lui, il a besoin que tu invoques Allah en sa faveur et non pas que tu l'invoques lui. Lui, il est mort. Ses actions sont arrêtées. Il a besoin que tu invoques Allah en sa faveur et non pas de l'invoquer lui. Donc Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset dans lequel il dit « Innaka la tahdi man ahbabt ». Il s'adresse à son noble prophète, la meilleure des créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu ne guides pas ceux que t'aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Voilà, par rapport à ce point, donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum, wa jazakum allahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.